dans ma maison, vous viendrez. D'ailleurs, ce n'est pas ma maison. Je ne sais pas qui elle est. Je suis entré comme ça un jour. Il n'y avait personne. Seulement des piments rouges accrochés au mur blanc. Je suis resté longtemps dans cette maison. Personne n'est venu. Mais tous les jours et tous les jours, je vous ai attendu. Je ne faisais rien, c'est-à-dire rien de sérieux. Quelquefois, le matin, je poussais des cris d'animaux. Je gueulais comme un âne de toutes mes forces. Et cela me faisait plaisir. Et puis, je jouais avec mes pieds. C'est très intelligent, les pieds. Ils vous amènent très loin quand vous voulez aller très loin. Et puis, quand vous ne voulez pas sortir, ils restent là et ils vous tiennent compagnie. Faut être bête comme l'homme l'est si souvent pour dire des choses aussi bêtes que bêtes comme ses pieds, gais comme un pinson. Le pinson n'est pas gai. Il est gai seulement quand il est gai, et triste quand il est triste, ou ni gai ni triste. Est-ce qu'on sait ce que c'est qu'un pinson? D'ailleurs, il ne s'appelle pas réellement comme ça. C'est l'homme qui a appelé cet oiseau comme ça. Pinson! Pinson, pinson, pinson. Comme c'est curieux les noms. Martin, Hugo, Victor de son prénom. Bonaparte, Napoléon de son prénom. Pourquoi comme ça et pas comme ça? Un troupeau de Bonaparte passe dans le désert. L'empereur s'appelle Dromadaire. Il a un cheval-caisse et des tiroirs de course. Au loin galope un homme qui n'a que trois prénoms. Il s'appelle Tim Tam Tom et n'a pas de grand nom. Un peu plus loin encore, il y a n'importe qui. Beaucoup plus loin, il y a n'importe quoi. Et puis, qu'est-ce que ça peut vous faire, tout ça? Dans ma maison, tu viendras. Je pense à autre chose, mais je ne pense qu'à ça. Et quand tu seras entré dans ma maison, tu enlèveras tous tes vêtements et tu resteras immobile, nu, debout, comme les piments rouges accrochés au mur blanc. Et puis tu te coucheras et je me coucherai près de toi. Voilà, dans ma maison qui n'est pas ma maison, tu viendras. Boris Vian, qu'y a-t-il? Premièrement, il y a beaucoup de mérite à épouser une femme plus jeune que soi. Il y a beaucoup de mérite à épouser une femme. Il y a beaucoup de mérite à épouser. Sans parler des emmerdements. Deuxièmement, il y a beaucoup de mérite à épouser une femme plus vieille que soi. Il y a beaucoup de mérite à épouser une femme. Il y a beaucoup de mérite à épouser. Sans compter les emmerdements. Troisièmement, il y a beaucoup, 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 beaucoup d'emmerdements. Sans compter le mérite d'épouser une femme. Familiale de Prévert. La mère fait du tricot, le fils fait la guerre, et elle trouve ça tout naturel, la mère. Et le père, qu'est-ce qu'il fait, le père? Il fait des affaires. Le père, sa femme fait du tricot, son fils la guerre, lui des affaires. Il trouve ça tout naturel, le père. Et le fils, qu'est-ce qu'il trouve, le fils? Il ne trouve rien. Il ne trouve rien, le fils, son père fait des affaires, sa mère du tricot, lui la guerre. Quand il aura fini la guerre, il fera des affaires avec son père. La guerre continue, la mère continue, elle tricote. Le père continue, il fait des affaires, le fils est tué. Il ne continue pas. Le père et la mère vont au cimetière et ils trouvent ça tout naturel, le père et la mère. La vie continue, la vie avec le tricot, la guerre, les affaires. La vie avec le cimetière. Un poète, c'est un être unique, à des tas d'exemplaires, qui ne pense qu'en vers et n'écrit qu'en musique, sur des sujets divers, des rouges ou des verts, mais toujours magnifiques. Chatry, Brésilien. Quand j'avais 12 ans, on descendait tous en bande vers la Pointe-à-Pitre. On cueillait des sapotes et des mombins sur le bord de la route jaune. Les oiseaux jouaient à chat perché en criant des vieux airs créoles. La vie était en forme de dragée. Il n'y avait rien que de très doux, mais tout de même plein de substance. Ma nourrice me portait dans ses bras. À 12 ans, j'étais aussi grand qu'elle. Mais j'aimais toujours tenir dans ma bouche la pointe ronde et noire de ses beaux seins lourds. Nous nous étendions derrière les cannes. Le vent bruissait à travers leurs feuilles longues, aiguës et couvertes de soie rêche. Ma nourrice était toujours nue, et moi toujours déshabillé. Aussi, nous nous entendions très bien. Elle avait une odeur sauvage et des dents blanches plein la figure. La terre sentait l'or béni pellule et les fleurs de Congo brûlant nous recouvraient de leur pollen orangé. Dans 3 saisons, j'ai eu 12 ans. Parce que j'aimais tellement ma nourrice, je ne pouvais pas la quitter. Ma peau prenait des reflets bruns, brûlés au soleil de la sienne. Je la touchais avec toutes mes mains ensemble, les mains de mes yeux, celles de mon corps, et nos membres fumaient dans l'air veiné de noir. Je ne sais pas comment font 2 allumettes pour s'entremêler, mais je sais que nous étions tous les deux bien droits l'un contre l'autre, comme 2 allumettes. Et au bout d'un instant, un chat n'y aurait pas retrouvé ses petits. D'ailleurs, il savait très bien que ses petits n'étaient pas là. Bonjour, chien. J'avise un chien dans la rue et je lui dis « Bonjour, chien, comment vas-tu ? » Croyez-vous qu'il me répondrait ? Non, et pourtant il me répond. Il me répond quand même. Alors quand je vois des gens qui marchent dans la rue et qui ne font même pas attention aux chiens, j'ai honte pour eux. Pour eux et pour leurs parents, et pour les parents de leurs parents. Parce qu'une si mauvaise éducation, ça mérite, et je ne suis pas généreux, 3 générations de syphilis héréditaire. Cependant, je dois reconnaître, pour ne vexer personne, que bon nombre de chiens ne parlent pas souvent. Braves gens, écoutez ma complainte, écoutez l'histoire de ma vie. C'est un orphelin qui vous parle, qui vous raconte ses petits ennuis. Udon. Un jour, un général, ou bien c'était une nuit, un général eut donc deux chevaux tués sous lui. Ces deux chevaux, c'était Udon, que la vie est amère. C'était mon pauvre père et puis c'était ma pauvre mère qui s'était cachée sous le lit du général, qui s'était cachée à l'arrière dans une petite ville du Midi. Et le général parlait tout seul la nuit, parlait en général de ses petits ennuis. Et c'est comme ça que mon père et c'est comme ça que ma mère, Udon, une nuit, sont morts d'ennui. Pour moi, la vie de famille était déjà finie. Sortant de la table de nuit, au grand galop, je m'enfuis. Je m'enfuis vers la ville où tout brille, où tout luit. En moto, j'arrive à Sabi en paro. Excusez-moi, je parle cheval. Un matin, j'arrive à Paris en sabot. Je demanderai voir le lion, le roi des animaux. Je reçois un coup de brancard sur le coin du naseau, car il y avait la guerre qui continuait. Et plus la guerre continuait, plus les vivres diminuaient. Et plus les vivres diminuaient, plus les gens me regardaient avec un drôle de regard. Ils m'appelaient Biftec. Moi, je croyais que c'était de l'anglais. Udon. Tous ceux qui étaient vivants et qui me caressaient attendaient que je sois mort pour pouvoir me bouffer. Une nuit, dans l'écurie, une nuit où je dormais, j'entends un drôle de bruit, une voix que je connais. C'était le vieux général. Le vieux général qui revenait comme un revenant avec un vieux commandant. Et il parlait tout doucement. Il croyait que je dormais. Assez, assez, assez de riz à l'eau. Nous voulons manger de l'animal. Il n'y a qu'à lui mettre dans son avoine des aiguilles de phono. Alors mon sang ne fit qu'un tour, comme un tour de chevaux de bois. Et sortant de l'écurie, je m'enfuis dans les bois. Aujourd'hui, la guerre est finie. Le vieux général est mort, mort dans son lit, mort de sa belle mort. Mais moi, je suis toujours vivant. Et c'est le principal. Bonsoir, bonne nuit. Bon appétit, mon général. Casse le monde à coups de marteau. Il casse le monde en petits morceaux. Mais ça m'est égal. Ça m'est bien égal. Il en reste assez pour moi. Il en reste assez. Il suffit que j'aime une pierre bleue, un chemin de terre, un oiseau peureux. Il suffit que j'aime un brin d'herbe mince, une goutte de rosée, un grillon des bois. Ils peuvent casser le monde en petits morceaux, il en reste assez pour moi, il en reste assez. j'aurai toujours un peu d'air, un petit filet de vie, dans l'œil un peu de lumière, et le vent dans les orties. Et même s'ils me mettent en prison, il en reste assez pour moi, il en reste assez. Il suffit que j'aime cette pierre corrodée, ces crochets de fer où s'attarde un peu de sang. Oh, je l'aime, la planche usée de mon lit, la paillasse et le chalit, la poussière de soleil. J'aime ce Judas qui s'ouvre, ces hommes qui sont entrés, qui s'avancent, qui m'emmènent retrouver le goût de la vie et retrouver la couleur. J'aime ces deux longs montants, ce couteau triangulaire, ces messieurs vêtus de noir, c'est ma fête et je suis fier. Oh, je l'aime ce panier rempli de sons où je vais poser ma tête. Oh, je l'aime pour de bon. Il suffit que j'aime un brin d'herbe bleue, une goutte de rosée, un amour d'oiseau peureux. Ils peuvent casser le monde avec leur marteau pesant. Il en reste assez pour moi. Il en reste assez, mon cœur. C'est le printemps. Les animaux, les fleurs. Dans les bois de Clamart, on entend les clameurs des enfants qui se marrent. C'est le printemps. L'aiguille s'affole dans sa boussole et la grande dolicocéphale sur son sofa s'affale et fait la folle. C'est le printemps. Amoureuses, les allumettes, disons, se vautrent sur leur frottoir. Le binocard entre au bocard. C'est le printemps, l'acné des collégiens. Les fleurs sur les balcons, les arrosoirs. C'est la belle saison. Le soleil brille pour tout le monde. Il ne brille pas dans les prisons. Il ne brille pas pour ceux qui travaillent dans la mine. Ceux qui traient les vaches et ne boivent pas le lait. ceux qui ont le pain quotidien relativement hebdomadaire, ceux qui fabriquent dans les caves les stylos avec lesquels d'autres écriront en plein air que tout va pour le mieux, ceux qui en ont trop à dire pour pouvoir le dire, ceux qui l'hiver se chauffent dans les églises, ceux que le Suisse envoie se chauffer dehors, ceux qu'on fouille, ceux dont on prend les empreintes, ceux qu'on fait sortir des rangs au hasard et qu'on fusille, ceux qu'on fait défiler devant l'arc, ceux qui ne savent pas se tenir dans le monde entier, ceux qui regardent leurs chiens crever, ceux qu'on n'endort pas chez le dentiste, ceux qui ne se sont pas baissés pour ramasser l'épingle, ceux qui vieillissent plus vite que les autres, ceux qui meurent d'ennui le dimanche après-midi parce qu'ils voient venir le lundi, le mardi, le mercredi, le jeudi, le vendredi, le samedi et le dimanche après-midi. Brésien a aussi écrit des nouvelles. En voici une très courte. Ça s'appelle « Les fourmis ». Je suis toujours debout sur la mine. Ce matin, nous étions partis en patrouille et je marchais le dernier comme d'habitude. Ils sont tous passés à côté. Moi, j'ai senti le déclic sous mon pied. Je me suis arrêté net. Elle n'éclate que quand on retire son pied. J'ai jeté tout ce que j'avais dans les poches à mes camarades et je leur ai dit de s'en aller. Je suis tout seul. Je devrais peut-être attendre qu'ils reviennent, mais je leur ai dit de ne pas revenir. Je pourrais essayer de me jeter à plat ventre, mais je n'accepterai pas de vivre sans jambes. Il ne me reste que le carnet et le crayon. Je vais les lancer parce qu'il faut absolument que je change de jambes. Il faut absolument que je le fasse parce que j'en ai assez de la guerre et parce qu'il me vient des fourmis. Les 400 coups. Ils étaient quatre qui n'avaient plus de tête, quatre à qui l'on avait coupé le cou. On les appelait les 400 coups. Quand ils buvaient un verre au café de la place ou du boulevard, les garçons n'oubliaient pas d'apporter des entonnoirs. Quand ils parlaient, c'était d'amour. Ils auraient pour un baiser donné ce qu'il leur restait de sang. Leurs mains avaient des lignes sans nombre qui se perdaient parmi les ombres comme les rails dans la forêt. On leur avait rapporté leur tête plus de 20 fois, plus de 100 fois, les ayant retrouvés à la chasse ou dans les fêtes. Mais jamais ils ne voulurent reprendre ces têtes où brillaient leurs yeux, où les souvenirs dormaient dans leur cervelle. Cela ne faisait peut-être pas l'affaire des chapeliers ou des dentistes. La gaieté des uns rend les autres tristes. Les 400 coups vivent encore, c'est certain. J'en connais au moins un, et peut-être aussi les trois autres. Le premier, c'est Anatole. Le second, c'est Croquignol. Le troisième, c'est Barbe Molle. Le quatrième, c'est encore Anatole. Je les vois de moins en moins car c'est déprimant à la fin, la fréquentation des gens trop malins. Étranges étrangers, Kabyle de la Chapelle et des quais de Javel, hommes des pays loin, cobayes des colonies, doux petits musiciens, soleil adolescent de la porte d'Italie, boumian de la porte de Saint-Ouen à Patrick d'Aubervilliers, brûleur des grandes ordures de la ville de Paris, ébouillanteur des bêtes trouvées mortes sur pied au beau milieu des rues, Tunisien de Grenelle, embauché, débauché, manœuvre désœuvrée, Polac du Marais du Temple des Rosiers, cordonnier de Cordoue, soutier de Barcelone, pêcheur des Baléares ou du Cap Finistère, rescapé de Franco et déporté de France et de Navarre pour avoir défendu en souvenir de la vôtre la liberté des autres. Esclave noir de Fréjus, tiraillé et parqué au bord d'une petite mer où peu vous vous baignez, esclave noir de Fréjus, qui évoquait chaque soir dans les locaux disciplinaires, avec une vieille boîte à cigares et quelques bouts de fil de fer, tous les échos de vos villages, tous les oiseaux de vos forêts, et ne venez dans la capitale que pour fêter, au Paca danser, la prise de la Bastille, le 14 juillet. Enfant du Sénégal, dépatrié, expatrié et naturalisé. Enfant indochinois, jongleur aux innocents couteaux, qui vendiez autrefois aux terrasses des cafés de jolis dragons d'or faits de papier plié, enfant trop tôt grandi et si vite en allé, qui dormez aujourd'hui de retour au pays, le visage dans la terre, et des bombes incendiaires labourant vos rizières. On vous a renvoyé la monnaie de vos papiers dorés, on vous a retourné vos petits couteaux dans le dos, étranges étrangers. Vous êtes de la ville, vous êtes de sa vie, même si mal en vivez, même si vous en mourrez. Jacques Prévert, 1955. Si je vous demandais comme ça, brûle-chemise, l'innocence est-elle une vertu? L'innocence est-elle une vertu? Moi, je ne répondrai pas. Je chercherai un faux fuyant, je dirais, avez-vous lu Cézanne? Naturellement, l'innocence n'est pas une vertu, parce que depuis le temps, sans doute, ma tante, par exemple, avait beaucoup de vertus, elle les a toujours, mais elle est vieille. Les Grecs aussi avaient plein de vertus, et pourtant, les Grecs ont guillotiné Socrate. C'est difficile de juger. Naturellement, on n'y était pas. Mais en pareille circonstance, je vous demanderai de ne pas répondre et de chercher un faux fuyant. Et si vous n'en trouvez pas, vous pouvez toujours vous suicider. Les enfants de maintenant, ils sont tristes et silencieux, Ils ont peur des vieux vicieux. Ils s'ennuient dans les cafés et rien ne leur fait de l'effet. Mais quand on leur parle gentiment, d'abord ils continuent à se méfier, et puis petit à petit ils s'ouvrent et ils osent vous répondre. Et ils disent, il n'y a pas de travail. On ne peut pas accepter de travailler uniquement pour manger. Et puis il y aura la guerre. Et on en a assez d'attendre. Les arbres sont verts avec des yeux tendres. Le soleil est là et dans 50 ans, on aura la peau si épaisse qu'il ne la traversera plus. Alors à quoi bon, à quoi bon? On sera vieux ou bien perclus et on n'en profitera plus. Et les filles? Les filles, elles n'aiment pas les hommes. Un homme, ça peut blesser, ça peut acheter, ça peut faire un enfant. On est jeune, on est joli, on va travailler, on va s'abîmer. Les filles laides n'ont pas de problème. Tout au moins, le problème est différent. Et d'autres pensent, les gens qui attendent dans la rue, ils attendent leur autobus. Comment voulez-vous vivre avec des gens qui s'intéressent à l'autobus? Ça n'a pas de sens. Alors, les frères, on va s'en aller dans une île déserte. Mais il n'y a pas d'île déserte. On va en fabriquer une. Ah, ça c'est la solution. Mais l'île déserte prend l'eau, parce que depuis le temps qu'on n'en fait plus, comme pour les très vieux violents, le secret s'en est perdu. À l'époque de l'occupation allemande, dans les années 40, Robert Desnos a écrit plusieurs poèmes de résistance. En voici un qui s'appelle « La rue Saint-Martin ». Je n'aime plus la rue Saint-Martin. Depuis qu'André Plater l'a quittée, je n'aime plus rien. Pas même le vin. Je n'aime plus la rue Saint-Martin. C'est mon ami. C'est mon copain. Nous partageons la chambre et le pain. Je n'aime plus la rue Saint-Martin. Ils sont venus. Ils l'ont emmené un matin. On ne sait plus rien. On ne l'a pas revu dans la rue Saint-Martin. Inutile d'implorer les saints, Saint-Méry, Jacques, Gervais ou Martin, ni même Valérien qui se cache sur la colline. Le temps passe. On ne sait rien. André Platard a quitté la rue Saint-Martin. La Seine, Jacques Prévert. Ils sont assis à table, ils n'ont pas faim, ils ne sont pas dans leur assiette, mais leur assiette se tient toute droite verticalement derrière leur tête. Je voudrais pas crever avant d'avoir connu les chiens noirs du Mexique qui dorment sans rêver. Les singes à queue nue dévoreurs de tropiques. Les araignées d'argent au nid truffé de bulles. Je voudrais pas crever sans savoir si la lune, sous son faux air de thune, a un côté pointu, si les quatre saisons ne sont vraiment que quatre, sans avoir essayé de porter une robe sur les grands boulevards, sans avoir regardé dans un regard d'égout, sans avoir mis mon zob dans des coinstos bizarres. Je voudrais pas finir sans connaître la lèpre ou les sept maladies qu'on attrape là-bas. Le bon ni le mauvais ne me feraient de peine si je savais que j'en aurais les traînes. Et il y a aussi tout ce que je connais, tout ce que j'apprécie, que je sais qui me plaît. Le fond vert de la mer où valsent des brins d'algues sur le sable ondulé, l'herbe grillée de juin, la terre qui craquelle, l'odeur des conifères et les baisers de sel, que ceci, que cela, la belle que voilà, mon ourson, l'Ursula. Je ne voudrais pas crever avant d'avoir usé sa bouche avec ma bouche, son corps avec mes mains, le reste avec mes yeux. J'en dis pas plus, faut bien rester révérencieux. Je voudrais pas finir sans qu'on ait inventé les roses éternelles, la journée de 2 heures. La mer à la montagne à la mer, les journaux en couleur, la fin de la douleur, tous les enfants contents, et tant de trucs encore qui dorment dans les crânes des géniaux ingénieurs, des jardiniers joviaux, des soucieux socialistes, des urbains urbanistes et des pensifs penseurs. Tant de choses à voir et à entendre, tant de temps à attendre, à chercher dans le noir. Et moi je vois la faim qui grouille et qui s'amène avec sa gueule moche et qui m'ouvre ses bras de grenouille bancroche. Je voudrais pas crever, non monsieur, non madame, avant d'avoir tâté le goût qui me tourmente, le goût qui est le plus fort. Je voudrais pas crever avant d'avoir goûté la saveur de la mort.
Adrienne, de Jacques Prévert.
Adrienne, ne fais pas ta mauvaise tête, reviens. J'ai eu des torts, j'en conviens. Souvent, je battais le chien. Mais je t'aimais bien, hein, Adrienne? Je t'aimais bien. La boule de neige que tu m'avais jetée l'hiver dernier à Chamonix, je l'ai gardée. Elle est sur la cheminée. À côté du portrait de mariée de feu, ma pauvre mère, qui mourut assassinée par défunt mon père, qui lui-même mourut guillotiné par un triste matin d'hiver ou de printemps. Adrienne, ne fais pas la mauvaise tête. Reviens. J'ai eu des torts, j'en conviens, mais je t'aimais bien. Hein, Adrienne? Je t'aimais bien. Et Brindosier, ton petit fox terrier qui est crevé la semaine dernière, je l'ai gardé. Il est dans le frigidaire. Et quand parfois j'ouvre la porte pour prendre une bière, je vois la pauvre bête morte. Mais ça me désespère. Et pourtant c'est moi qui l'ai tué. Un soir, pour passer le temps, en t'attendant. Adrienne, ne fais pas la mauvaise tête, reviens. J'ai eu des torts, j'en conviens, c'est vrai. Je suis resté longtemps absent de la maison, mais je te l'ai toujours caché. C'est parce que j'étais en prison. Adrienne, ne fais pas la mauvaise tête, reviens. Avant-hier, de la tour Saint-Jacques, je me suis jeté. Je me suis tué. À cause de toi. Hier, on m'a enterré dans un très joli cimetière. Et je pensais à toi. Et ce soir, je suis revenu dans l'appartement où tu te promenais, nu. Adrienne, ne fais pas la mauvaise tête, reviens. J'ai eu des torts, j'en conviens. Mais je t'aimais bien. Hein? Adrienne, je t'aimais bien. Retour au pays. C'est un Breton qui revient au pays natal, après avoir fait plusieurs mauvais coups. Il se promène devant les fabriques à Douarnenez. Il ne reconnaît personne. Personne ne le reconnaît. Il est très triste. Il entre dans une crêperie pour manger des crêpes, mais il ne peut pas en manger. Il y a quelque chose qui les empêche de passer. Il paye, il sort. Il allume une cigarette, mais il n'a pas envie de fumer. Il y a quelque chose dans sa tête, quelque chose de mauvais. Et il se met à se souvenir. Quelqu'un lui avait dit quand il était petit, « Tu finiras sur l'échafaud. » Et pendant des années, il n'a jamais osé rien faire. Rien, pas même traverser la rue, pas même partir sur la mer, rien, absolument rien. Il se souvient, celui qui avait tout prédit, c'est l'oncle Grésillard, qui portait malheur à tout le monde, la vache. Et le Breton pense à sa sœur qui travaille à Vaugirard, à son frère mort à la guerre, pense à toutes les choses qu'il a vues, toutes les choses qu'il a faites, la tristesse se serre contre lui. Il essaie une nouvelle fois d'allumer une cigarette, mais il n'a pas envie de fumer. Alors il décide d'aller voir l'oncle Grésillard. Il y va. Il ouvre la porte. L'oncle ne le reconnaît pas, mais lui le reconnaît. Et il lui dit « Bonjour, oncle Grésillard. » Et puis il lui tord le cou. Et il finit sur l'échafaud à Quimper, après avoir fumé une cigarette et mangé 2 douzaines de crêpes. Dix ans après la mort de Robert Desnos, Jacques Prévert a écrit « Aujourd'hui, comme en 1943, dans la rue Dauphine, quand il venait chercher à manger pour ses chats de la rue Mazarine, avant d'être cravaté, emporté, déporté, tué par la guerre, la police, la vacherie, le typhus, je me suis promené avec Robert Desnos. Oui. Je me suis promené avec lui. Et on riait. Et on s'engueulait. On n'était pas toujours d'accord. Tous deux, comme une femme, nous aimions la vie. Et ces grands éclats de voix, de colère et de rire, et de portes claquées, et de carreaux brisés, rebondissaient sur le pavé. Mais toujours il y avait dans la main de l'amitié le mastic du vitrier. Aujourd'hui, 10 novembre 1955, je me suis promené avec lui dans la rue Saint-Martin. Le jour n'était pas encore éteint, mais déjà étaient allumées les boutiques de la bimbeloterie. Sur le trottoir étroit, il restait là, ébloui devant les articles de Paris. Son regard d'enfant, mieux qu'un diamant, coupait les vitres et racontait déjà la vie aventureuse de ses futurs souvenirs, de cette merveilleuse pacotille. Sur la ville, le ciel était bleu fastueux, bleu d'orage et de tendre furie. Les nuages étaient en habit. Il s'en allait à la noce aujourd'hui, même s'il est mort. À la noce à Desnos, à la noce à Yuki, même s'il est un peu loin d'elle, et elle un peu loin de lui. Et nous buvions un verre au tournant de chaque rue, à la santé entière d'un monde éparpillé, d'un monde escamoté, d'un monde retrouvé et perdu, pyramide de verre de vigne et de sable, de souvenirs légers, de griefs oubliés, et tous deux sous la table ou attablés dessus, nous ne nous cherchions plus de raison dans le vin. Autant chercher dans l'eau du robinet la saveur heureuse du raisin. À ta santé, Robert. Et même si tu es mort, à ton rêve éveillé. Si les poètes étaient moins bêtes, et s'ils étaient moins paresseux, ils rendraient tout le monde heureux pour pouvoir s'occuper en paix de leurs souffrances littéraires. Ils construiraient des maisons jaunes avec des grands jardins devant et des arbres pleins de oiseaux, des mirliflutes et des liseaux. Des maisons et des feux vertes, des plumuches, des pique-assiettes et des petits corbeaux tout rouges qui diraient la bonne aventure. Il y aurait de grands jets d'eau, avec des lumières dedans. Il y aurait 200 poissons, depuis le Crousco Ramusson, de la libelle au Pépamule, de l'orphie au Rara Curule et de la voile au Canisson. Il y aurait de l'air tout neuf, parfumé de l'odeur des feuilles. On mangerait quand on voudrait, et l'on travaillerait sans hâte à construire des escaliers de forme encore jamais vue, avec des bois veinés de mauve, lisses comme elles sous les doigts. Mais les poètes sont très bêtes. Ils écrivent pour commencer au lieu de se mettre à travailler, et ça leur donne des remords qu'ils conservent jusqu'à la mort, ravis d'avoir tellement souffert. On leur donne des grands discours et on les oublie en un jour. Mais s'ils étaient moins paresseux, on ne les oublierait qu'en deux. La chanson la plus connue de Boris Vian, c'est certainement Le Déserteur. Monsieur le Président, je vous fais une lettre que vous lirez peut-être si vous avez le temps. Cette chanson a été complètement interdite. Et puis finalement, la censure l'a acceptée à condition que l'on change certaines choses. Je vais dire donc le poème de Boris Vian dans la version originale. Monsieur le Président, je vous fais une lettre que vous lirez peut-être si vous avez le temps. Je viens de recevoir mes papiers militaires pour partir à la guerre avant mercredi soir. Monsieur le Président, je ne veux pas la faire. Je ne suis pas sur terre pour tuer des pauvres gens. C'est pas pour vous fâcher. Il faut que je vous dise, ma décision est prise. Je m'en vais déserter. Depuis que je suis né, j'ai vu mourir mon père. J'ai vu partir mes frères et pleurer mes enfants. Ma mère a tant souffert qu'elle est dedans sa tombe et se moque des bombes et se moque des vers. Quand j'étais prisonnier, on m'a volé ma femme. On m'a volé mon âme et tout mon cher passé. Demain, de bon matin, je fermerai ma porte au nez des amours mortes. J'irai par les chemins. Je mendierai ma vie sur les routes de France, de Bretagne en Provence. Et je dirai aux gens, refusez d'obéir, refusez de la faire. N'allez pas à la guerre. Refusez de partir. S'il faut donner son sang, allez donner le vôtre, monsieur le Président. Vous êtes bon apôtre. Si vous me poursuivez, prévenez vos gendarmes que j'emporte des armes et que je sais tirer. Rappelle-toi, Barbara, il pleuvait sans cesse sur Brest ce jour-là, et tu marchais souriante, épanouie, ravie, ruisselante sous la pluie. Rappelle-toi, toi que je ne connaissais pas, toi qui ne me connaissais pas, rappelle-toi, rappelle-toi quand même ce jour-là. Je t'ai croisé rue de Siam, tu souriais, et moi je souriais de même. Rappelle-toi, un homme sous un porche s'abritait, et il a crié ton nom, Barbara. Et tu as couru vers lui sous la pluie, ruisselant ravi épanoui, et tu t'es jeté dans ses bras. Rappelle-toi cela, Barbara, et ne m'en veux pas si je te tutoie. Je dis tu à tous ceux que j'aime, même si je ne les ai vus qu'une seule fois. Je dis tu à tous ceux qui s'aiment, même si je ne les connais pas. Rappelle-toi. Rappelle-toi cette pluie sage et heureuse sur ton visage heureux, sur cette ville heureuse, cette pluie sur l'océan, sur le bateau doux et sain. Ah, Barbara, quelle connerie la guerre. Qu'es-tu devenue maintenant? Sous cette pluie de fer, de feu, d'acier, de sang. Et celui qui te serrait dans ses bras, amoureusement, est-il mort, disparu, ou bien encore vivant? Oh, Barbara, il pleut sans cesse sur Brest comme il pleuvait avant, mais ce n'est plus pareil et tout est abîmé. C'est une pluie de deuil terrible et désolée. Ce n'est même plus l'orage de fer, de feu, d'acier, de sang, simplement des nuages qui crèvent comme des chiens qui disparaissent au fil de l'eau sur Brest et vont mourir au loin, très loin de Brest, dont il ne reste rien. De Borisian, pourquoi que je vis, pour la jambe jaune d'une femme blonde adossée au mur, sous le plein soleil, pour la voile ronde d'un pointu du port, pour l'ombre des stores, le café glacé qu'on boit dans un tube, pour toucher le sable, voir le fond de l'eau qui devient si bleu, qui descend si bas, avec les poissons, les calmes poissons. Ils paissent le fond, volent au-dessus des algues cheveux, comme oiseaux lents, comme oiseaux bleus. Pourquoi que je vis? Parce que c'est joli.
Il est 14h.